le magazine des Nations Unies.
Plus de 60 000 réfugiés sud-soudanais déjà enregistrés dans l'Ituri et le Haut-Uele. Ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, ne sont pas à confondre avec les combattants de l'ancien vice-président Riek Machar. Des précisions ont été données mercredi à la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Situation politique en RDC, la MONUSCO a pris acte de l'accord qui a sanctionné la clôture du dialogue politique. Vous suivrez un extrait mot de circonstance du numéro 2 de la mission onusienne à David Gressley. Combattre l'humiliation et l'exclusion au profit de la participation pour éliminer la pauvreté, c'est en tout cas le thème de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée le 17 octobre à Kinshasa. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a organisé une série d'activités pour mettre en évidence l'importance de cette thématique. Dans cette édition, un expert du PNUD sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. Le déferlement des réfugiés sud-soudanais se poursuit en Ituri dans le Haut-Uele. Plus de 60 000 d'entre eux ont déjà été formellement enregistrés par l'UACR et le gouvernement congolais. Information livrée mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Alors des plus amples détails avec Honoré Missenga Kalala.
Jusqu'à mercredi dernier, 60 171 personnes avaient été enregistrées par l'OASR et les autorités congolaises parmi ces gens qui fuient la guerre et les violences au Soudan du Sud. La majorité, ce sont des femmes et des enfants. Cependant, ces personnes ne sont pas à confondre avec les combattants sud-soudanais de l'ancien vice-président Riek Machar. Administrateur principal régional des relations extérieures au OASR-RDC, M. Andres Kirchhoff a tenu à le préciser.
Tout réfugié est par définition une civile. Il faut faire une distinction. On a parlé de plus de 60 000 réfugiés qui sont arrivés en RDC du Sud-Soudan, dont la majorité des femmes et des enfants. Il ne s'agit pas des combattants. Ces gens, ils ne sont pas armés et fuient eux-mêmes la violence des groupes armés. Il faut distinguer les réfugiés des combattants de Riek Machar, un petit groupe qui a été soutenu par la MONUSCO et qui se trouve dans d'autres lieux que les réfugiés. C'est deux groupes différents.
Il reste maintenant à caser ces réfugiés sud-soudanais et pour l'OASR, l'idéal serait que ces réfugiés, une fois installés, soient autonomes et non totalement dépendants de l'assistance humanitaire et des communautés hôtes.
Autre sujet d'actualité de la semaine, la clôture des travaux du dialogue politique le mardi 18 octobre 2016. Des travaux sanctionnés par la signature par les parties prenantes d'un accord politique au nom des Nations Unies et par la voix du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. La MONUSCO a pris acte de cet accord politique et émis le vœu de voir tous les acteurs congolais adhérer au processus du dialogue. Les propos de messieurs David Gressley recueillis par Askinzit Bietayoro.
Nous prenons acte des conclusions du dialogue national tel que consigné dans l'accord que la partie prenante vient de signer. Nous osons espérer que ceci ouvrira la voie à un processus politique toujours plus inclusif au cours des semaines à venir. Nous encourageons tous les Congolais à privilégier l'intérêt national de dépasser les intérêts particuliers, personnels ou partisans, et de se joindre à ce processus afin de privilégier le dialogue qui reste l'unique voie de sortie pacifique à l'impasse électorale actuelle. Nous exhortons toutes les parties prenantes congolaises de continuer à prendre des mesures qui visent à créer un climat de confiance.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
Le MAGUN revient encore une fois sur la journée mondiale du lavage des mains avec l'entretien que lui avait accordé Franck Abeille de la section WASH à l'UNICEF RDC et c'est en marge de cette journée. Il s'est entretenu avec Honoré Missenga Kalala.
Franck Abbé, bonjour.
Bonjour.
Depuis 2008, l'UNICEF et beaucoup des nations célèbrent le 15 octobre la journée mondiale du lavage des mains. Quel est l'intérêt de cet événement?
Je pense que le principal intérêt, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière une pratique qui est indispensable au quotidien. Indispensable pourquoi? Parce qu'avec ce geste relativement simple, à des moments clés, on peut éviter beaucoup de maladies, on peut éviter le choléra, on peut prévenir la malnutrition, on peut être en bonne santé et se consacrer à d'autres tâches de manière quotidienne.
Et c'est sous quel thème est célébrée cette journée en 2016?
En 2016, on s'est axé tout simplement sur faire du lavage des mains une habitude. Rappeler à tout le monde que c'est quelque chose, en fait, qui doit être inné. C'est quelque chose qui doit se faire inconsciemment, à chaque instant, qui prend pas de temps et qui permet d'améliorer son quotidien.
Alors, Franck, le lavage des mains concerne tout le monde, mais pourquoi pour l'UNICEF, la principale cible, ce sont les enfants?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le mandat de l'UNICEF, effectivement, qui est de se consacrer principalement aux enfants et aux mamans. Ensuite, il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'on oublie peut-être parfois, c'est le rôle de prescripteur que jouent les enfants. Dans les communautés, au niveau des écoles, au niveau familial, ils sont présents à tous les niveaux et les enfants sont les générations de demain, sont ceux qui vont éduquer leur propre descendance ensuite après, ce sont ceux qui véhiculent les messages et qui les gardent tout au long du cycle de vie. Donc il est normal de se consacrer d'abord sur eux et ensuite ce sont surtout les plus fragiles, aussi les plus vulnérables à tout ce qui peut être infection, maladie et autres.
Oui, cela étant, comment concrètement donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est-il impliqué dans les objectifs de la journée mondiale de lavage des mains?
Pour l'UNICEF, ce qui est important, c'est d'être le plus visible et le plus présent pour cette journée. Alors c'est vrai qu'il y a des actions de communication à un niveau national et international qui se font. Plus précisément, en RDC, on travaille avec toutes les institutions, on demande également aux partenaires de se mobiliser, de nous faire remonter les informations, de nous faire remonter les actions que eux font autour de cette journée pour assurer le maximum de visibilité. On travaille également étroitement avec différentes institutions. Par exemple, demain, on aura le ministre de la Santé qui va se joindre à nous dans une école pour aller promouvoir également cette pratique. Et dans toutes les zones aussi où le choléra est présent, on renforce nos actions et on continue d'accentuer la sensibilisation.
Oui, alors parlez-nous effectivement de la situation actuelle du choléra en RDC. Comment l'UNICEF compte appuyer le gouvernement de la RDC dans la lutte contre cette maladie? Et quel est le lien entre finalement le choléra et le lavage des mains?
Le choléra, c'est avant toute chose une maladie qu'on appelle la maladie des mains sales. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, on fait face à une épidémie très très importante à travers tout le pays. On est à plus de 22 000 cas depuis le début de l'année, ce qui est largement au-dessus de l'année précédente. On retrouve de tels niveaux en 2011-2012. Il faut savoir que pour l'instant, on a quand même eu près aujourd'hui de 500 décès liés au choléra cette année, ce qui est très très important. On retrouve également le choléra dans des zones qui ne sont pas toujours habituées en ce moment à cette maladie. Toute la partie ouest du pays est fortement impactée, alors que traditionnellement parlant, on retrouve peut-être plus la maladie côté est et sud du pays.
Surtout le long du fleuve Congo.
Le bassin du fleuve Congo est un très très grand foyer. Et là où c'est assez compliqué, c'est que ce sont des zones qui sont isolées, où il y a peu de partenaires, où il est compliqué de se déplacer. Et tout simplement, quand on travaille avec des populations qui n'ont pas l'habitude de la maladie, ben leur capacité de résistance est bien plus faible. Ils n'ont pas les bonnes pratiques, les bons usages. Et là où, pour nous, ça peut paraître évident, entre autres, de se laver les mains. Pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas quotidien. Donc, c'est un foyer ou un nid supplémentaire pour cette maladie.
Oui, alors par rapport à ces situations que vous venez d'évoquer, quelle est l'action de l'UNICEF?
Nous, au travers de l'UNICEF, on se consacre sur différents plans. Un premier plan, effectivement, qui est tout ce qu'on appelle la partie sensibilisation. Comment travailler de manière efficace pour que les populations comprennent ce qui doit être fait dans ce type de situation. On a ensuite une partie qui va être plus prévention et réponse. Donc, on va supporter ce qu'on appelle les divisions provinciales de la santé à travers des donations. Alors, ça peut être du chlore, ça peut être des équipements qui leur permettent d'intervenir, de mettre en place des points de chloration également pour que les personnes puissent avoir accès à de l'eau propre. On va avoir également un support avec des partenaires qui connaissent la maladie, qui savent comment intervenir dans des situations. Et on a aujourd'hui quelques, ce qu'on appelle vulgairement des PCA dans notre langage, mais quelques accords avec des ONG qui savent comment travailler. Et également ensuite on assure une coordination très forte avec ce qu'on appelle le cluster. C'est-à-dire on réunit tous les acteurs autour d'une table, on discute de ce qui se fait, ce qui doit se faire, où est-ce que ça doit se faire, comment on priorise, quels sont les fonds disponibles, et donc bien sûr toute la partie de plaidoyer auprès de toutes les institutions, les partenaires, pour mobiliser autour de l'épidémie actuelle.
Oui, il y a également le programme Village et École Assainie.
Tout à fait. Alors le programme Village et École Assainie, lui, se dessine plutôt comme une réponse durable. Il faut savoir que ce programme a une certaine vision, prend un certain temps à se développer, mais est une très bonne solution complémentaire pour permettre de renforcer la prévention, mais à hauteur de un an et demi, deux ans. Donc ce qui compte, c'est il y a une stratégie assez simple qui existe dans la réponse choléra, qui est ce qu'on appelle la stratégie bouclier et coup de poing. Donc quand une épidémie arrive, on applique cette stratégie et tant que possible, on voit avec le gouvernement, avec les institutions locales également, pour pouvoir développer le programme village et école assainie qui, entre autres, implique un savoir assez poussé au niveau du traitement de l'eau, du lavage des mains et de l'hygiène à domicile.
Alors, comme dernier mot, on revient à la célébration de la journée mondiale de lavage des mains. Quel message voudrait bien faire passer le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à ce propos?
Alors, je pense qu'on peut vraiment revenir sur ce que je disais initialement. Le lavage des mains doit être une habitude. Le lavage des mains doit être inconscient et doit être inné. Quels que soient les moments de la journée où il est nécessaire de le faire, faites-le. Rappelez-vous que on pourrait se mémoriser de manière assez simple les actions à prendre. Elles se comptent sur les doigts d'une main. Il y a trois actions avant, deux actions après. On doit se laver les mains avant de manger, avant de préparer un repas, avant d'allaiter. On doit se laver les mains après être allé aux toilettes et on doit se laver les mains après avoir changé la couche du bébé. Déjà en faisant ça, on se prémunit très largement, entre autres, du choléra, mais également de toutes les autres maladies liées à une mauvaise hygiène.
C'est laver les mains avec du savon?
Pas forcément. Le savon est un produit qui a un certain coût, donc c'est pas accessible pour tous. Il existe des solutions beaucoup plus simples. On peut prendre de la cendre quand vous avez fini la cuisine, et si celle-ci est faite avec du charbon de bois ou du bois ou d'autres, vous prenez la cendre et ça suffit largement pour vous laver les mains. Il faut aussi que ce soit fait avec de l'eau, si possible, de qualité, mais en tout cas la cendre ou le savon. On peut même parler dans les villes en général avec les personnes qui peuvent y accéder. Acheter, il y a des petits flacons aujourd'hui antibactériologiques. Ce sont différentes solutions, mais ce qui est important, c'est de le faire avec les éléments que l'on a à disposition, donc cendre, savon principalement, et d'autres produits ensuite annexes.
Franck Abeille, merci beaucoup.
Je vous remercie, bonne journée.
En plus bref, d'abord avec la Cour pénale internationale où un jugement a été prononcé contre Jean-Pierre Bemba et consorts. C'était mercredi 18 octobre dernier que la chambre de première instance FET a reconnu l'ancien vice-président, son ancien conseil Aimé Kilolo, ainsi que Jean-Jacques Manguenda, Fidèle Baba Lawandou et Narcisse Arido, conjointement coupables d'avoir commis les infractions de subornation intentionnelle de 14 témoins de la défense et de production intentionnelle de faux éléments de preuve devant la cour. C'est payé encore, une délégation de la procureure Fatou Bensouda séjournée en RDC du 16 au 20 octobre. Cette délégation avait pour mission de réitérer l'appel de la procureure à toute partie congolaise à faire preuve de retenue afin d'éviter la commission des actes de violence criminelle contre les individus et les biens. À propos d'actes de violence, justement, les représentants de l'UNESCO et de l'UNICEF en RDC ont salué la mémoire des deux enseignants et des deux élèves décédés le 15 octobre dernier à Butembo dans le Nord Kivu. Décès survenus lors des accrochages entre militaires FARDC et les membres de la secte Église Corps du Christ. Les enseignants victimes de tirs d'une roquette étaient en plein exercice de leurs fonctions et les enfants en apprentissage en classe, souligne la déclaration de deux hauts fonctionnaires des Nations Unies en RDC. Tout en condamnant ces actes de violence, ils ont rappelé que l'école doit être un sanctuaire inviolable.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a célébré avec le gouvernement congolais la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Une journée consacrée le 17 octobre et cette année, l'événement sur le plan mondial a été placé sous le thème de l'humiliation et l'exclusion à la participation. Monsieur Stéphane Amani est conseiller en microfinance, emploi et secteur privé au bureau du PNUD RDC. Il nous explique le pourquoi de ce thème dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala. Suivez plutôt.
Stéphane Amani. Bonjour.
Bonjour.
Le 17 octobre, c'était la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le PNU, de le gouvernement. On célébrait cette journée. Quel est l'objectif de la célébration en fait, de la journée?
Oui, la journée du 17 octobre, c'est en réalité un grand jour parce que c'est un jour qui rappelle cette lutte contre la pauvreté. La seule lutte qui mérite d'être véritablement menée, parce que on se rappelle que dans notre société, il y a plusieurs milliers de gens qui sont encore pauvres, qui n'ont pas des revenus suffisants, qui vivent dans des conditions déplorables et que l'on côtoie au quotidien. On ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là de se remémorer de cette situation. On essaye à travers cette journée-là de sensibiliser toutes les parties prenantes à s'engager dans la lutte contre la pauvreté. En tête de liste, le gouvernement, les secteurs privés, les familles, toute la population en fait, dans son ensemble, devra s'engager véritablement pour lutter contre la pauvreté. Et enfin, cette journée est importante parce que également on doit mettre en valeur tous les efforts fournis jusque-là dans la lutte contre la pauvreté et dire clairement qu'est-ce que l'on est en train de faire pour éradiquer cette pauvreté à un horizon bien précis. Et donc cette lutte contre la pauvreté est en lien avec les objectifs du millénaire pour le développement qui ont échu en 2015. Maintenant, ce sont les objectifs du développement durable et que quand on les scrute, on trouve que cet objectif-là de lutte contre la pauvreté a toujours été repris à la première place. Et donc c'est le défi numéro un des développements et ça mérite donc d'être commémoré. Donc c'est pour nous un très grand jour et que le PNUD et toutes les parties prenantes n'ont pas voulu rater.
Alors, cet événement était passé cette année sous quel thème ?
Le thème de la journée était essentiellement axé sur l'humiliation et l'exclusion comme étant des facteurs clés de pauvreté.
Pourquoi ce thème ?
Oui, parce qu'on constate de plus en plus des inégalités, de pauvreté. Il y a plusieurs personnes qui sont exclues, soit du fait de leur sexe, du fait de leur localisation au village ou du fait de la guerre, du fait d'orientation personnelle, idéologique et tout ça. Et cela le met en marche, si vous voulez, de la vie de société. Cela fait à ce qu'ils n'aient pas accès à un certain nombre de services sociaux de base ou qu'ils n'aient pas du tout accès à l'emploi. Ce qui fait que ce thème pour cette année constitue un vrai défi pour une société qui veut aller vers le développement humain. Il devra être en mesure d'éliminer toutes les humiliations possibles liées aux facteurs que je viens d'évoquer, mais aussi toutes les formes d'exclusion sous toutes les formes que l'on peut connaître.
Stéphane, comment on peut définir finalement ce concept, la pauvreté ? Comment elle se mesure ?
Selon l'angle où l'on se trouve, mais la pauvreté, si on peut en parler, c'est d'abord une question des revenus, mais aussi des patrimoines. Ils seront appelés pauvres ceux qui ont un revenu faible, qui ne leur permet pas d'acheter, de consommer sur les marchés. Quand tu ne sais pas acheter à manger, c'est que tu es pauvre, tu n'as pas des revenus. Quand tu ne sais pas où te loger, c'est que tu es pauvre. Hein, ça en détermine beaucoup plus simple. Mais ça va bien au-delà de ça. Ça va sur des questions d'accessibilité aux services sociaux de base, comme par exemple l'éducation. Et donc le fait de connaître ou d'apprendre un certain nombre de choses vous prédispose à accéder à un niveau de développement assez intéressant. Et c'est là qu'il faut qu'on place véritablement toutes les campagnes en rapport avec la scolarisation, les formations, etc. Mais bien plus, la capacité à résister, la capacité à vivre longtemps, c'est pas un fait du hasard, c'est lié aux conditions hygiéniques, c'est lié à l'accès aux soins, c'est lié à l'alimentation. Et donc, les deux facteurs importants viennent compléter les questions de revenus et des patrimoines. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui sait quoi manger, c'est lui qui a appris des choses, qui a eu un niveau de connaissances assez intéressant, c'est lui qui a accès aux soins de santé, c'est lui qui peut voyager, c'est lui qui vit sous un toit, et donc l'ensemble de ces choses nous permet au fait de dire si quelqu'un a une qualité de vie assez bonne qui lui permet d'en jurer véritablement. Le PNUD, au fait, si vous voulez, produit annuellement ce que l'on appelle l'indice de développement humain, qui classe le pays selon les degrés d'atteinte du niveau de qualité humaine en termes de revenus, en termes de longévité, en termes d'éducation. Et cela nous permet d'apprécier les performances de pays dans leur engagement pour lutter véritablement contre la pauvreté.
Le PNUD ne fait pas que publier chaque année l'indice de développement humain. Le PNUD a aussi des programmes de développement. Comment votre agence accompagne le gouvernement congolais dans l'élimination de la pauvreté ?
Vous avez raison, le PNUD est très engagé, très engagé dans les développements humains, c'est-à-dire dans la lutte contre la pauvreté, que ce soit sous des formes d'exclusion ou d'humiliation, avec des programmes par exemple d'appui à la citoyenneté, de participation civique, des élections, la gouvernance pour s'assurer qu'il y a une gouvernance qui se met en place au niveau du pays et qui est profitable à la majorité de la population. Ça, c'est un volet assez important où le PNUD peut apporter un appui conseil au niveau du gouvernement de manière à mettre en place un certain nombre de politiques et des pratiques qui promeuvent la participation des uns et des autres et la mise en place de règles tout à fait profitables pour le pays. En plus de ça, il y a toute cette préoccupation de l'inclusivité de la croissance qui consiste essentiellement à la prise en compte de groupes particuliers qui sont relativement en marge de la croissance pour qu'ils puissent accéder à un certain nombre de bienfaits, de richesses partagées, si vous voulez. Hein, les populations qui sont, par exemple, à l'est et qui vivent les conséquences de guerres à répétition ont besoin d'un relèvement communautaire, d'un appui à la consolidation de la paix, d'un appui à la création de revenus et de leur emploi. Ils ont besoin d'un accès, au fait, à l'expression libre, à la participation de leur société. C'est ce que le PNUD fait à travers le programme d'appui à la justice, avec le programme d'appui à la consolidation de la paix, avec le programme de relèvement communautaire, avec les aspects qui touchent les personnes exposées au VIH-Sida, par exemple, mais aussi de questions d'environnement et des changements climatiques sont bel et bien pris en compte dans notre programme. Bref, le PNUD touche tous les paramètres qui sont censés influer sur le développement humain, que ce soit aujourd'hui et dans le futur. Et donc c'est là que l'on parle du développement humain durable.
C'est pas la manière.
Un saut à Goma où a été lancée mardi dernier la campagne dite « Semaine de consultation prénatale et prévention de la transmission de la mère à l'enfant » et cela à l'initiative de la Division provinciale de la santé du Nord-Kivu en partenariat avec l'UNICEF, comme nous l'explique Denise Loukesso.
Cette semaine vraiment spéciale est organisée par la Division provinciale de la santé du Nord-Kivu en partenariat avec l'UNICEF. Elle consiste à sensibiliser une catégorie de la population, notamment les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les partenaires masculins, sur comment prévenir et réduire les risques de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pendant cette semaine, qui va durer du 18 au 21 octobre courant, un dépistage volontaire intensifié en faveur de ces personnes sera donc organisé gratuitement. Il a été constaté que le dépistage de cette catégorie de personnes est trop faible, ce qui justifie cette campagne spéciale qui met l'accent sur la sensibilisation. Il faut signaler qu'une fois dépistée, la personne déclarée séropositive sera prise en charge gratuitement. Des antirétroviraux sont déjà disponibles pour un traitement à vie, a rassuré les responsables provinciaux du programme national de lutte contre le sida. Il faut préciser ici que 6 zones de santé de la province du Nord qui sont concernés par cette semaine. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Où se trouverait actuellement l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar? Suivez cette question ainsi que la réponse de Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Rigobert Kabongo pour l'agence de presse Univers Plus Média. Les humanitaires ont parlé l'effectif des 60 000 quelques réfugiés sud-soudanais qui sont ici au Congo, constitués essentiellement des femmes et des enfants. Ils ont fui les hommes d'Éric Machar. Ma question est celle de savoir où se trouverait Éric Machar, parce que certaines sources affirment qu'il s'est caché dans une forêt ici en RDC avec ses combattants. Et ces combattants sont au nombre de combien et sont pris en charge par quelle structure?
Merci. Donc, il faut tout de suite lever cette confusion. On vous avait dit que, effectivement, l'ancien vice-président du Sud-Soudan, Riek Machar, était entré en République démocratique du Congo avec un certain nombre de combattants. Mais on vous avait dit aussi que Riek Machar avait été transporté par la MONUSCO et remis aux autorités congolaises. Aux dernières nouvelles, et ça c'est par voie de presse, ce n'est pas officiel, il serait à Khartoum parce qu'il aurait été blessé lorsqu'il entrait avec ses troupes en République démocratique du Congo. Mais c'est tout ce que nous pouvons vous dire. Riek Machar, je ne pense pas qu'il soit en RDC et je ne pense pas aussi qu'il y ait des combattants qui soient pris par quelque structure que ce soit ou quelque organisation que ce soit. Ce que nous avons, ce sont des combattants que nous avons extraits du parc de la Garamba suite à une requête soumises par les autorités congolaises, et ces combattants, nous les avons désarmés, transportés et cantonnés dans nos bases. Les armes ont été sécurisées et nous continuons à les maintenir sous haute surveillance parce que non seulement ils ont accepté volontairement de désarmer, mais deuxièmement, il y a une responsabilité qui pèse sur nos épaules, donc nous avons l'obligation de veiller scrupuleusement à ces combattants qui sont parmi nous en attendant que la MONUSCO, les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale pour les régions des Grands Lacs, la RDC, le Sud-Soudan et tout autre partenaire puissent contribuer à rechercher et trouver une solution définitive pour ces Sud-Soudanais.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Nana Bolodjaya Leomoto, je suis mariée et mère de 4 enfants, dont des jumeaux. Je suis journaliste avec une licence en édition multimédia, même si j'ai toujours exercé comme animatrice radio. Parce que ce que je pourrais peut-être souligner ici, c'est que j'ai commencé à travailler avant d'intégrer l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ça, c'était en 2001. Donc, ça signifie que je suis dans le métier depuis à peu près 15 ans, par là. Alors, au sein de la MONUSCO, plus précisément la Radio Capi, je suis en charge de l'émission Découverte. C'est une émission de 3 heures diffusée en mi-journée sur toute la semaine, c'est-à-dire que l'émission passe de lundi à vendredi de 13h à 16h sur Radio Capi, sur l'antenne nationale. Et mon travail consiste à préparer l'émission, les interviews, les sujets, évidemment avec l'appui de certains collègues après concertation ou réunion d'équipe. Alors, depuis combien de temps? Je suis arrivée à Radio Capi en septembre 2004. J'ai fait plusieurs émissions, mais celle que je pense qui m'a réellement propulsée, c'était La Matinale, l'émission d'ailleurs pour laquelle j'avais été engagée ici en 2004. Et j'ai fait La Matinale durant 3 ans, de 2004 à 2007. Et bien plus tard, j'ai présenté l'émission Zigzag. Alors mes tâches quotidiennes, comme je l'ai dit, j'anime l'émission de la mi-journée, c'est de préparer les sujets, préparer les interviews, choisir les invités, préparer les micros. Dans notre jargon, quand on dit préparer les micros, c'est-à-dire préparer les annonces et les désannonces des chansons, savoir un peu comment introduire une belle désannonce après une chanson. Donc c'est ça qu'on appelle préparer les micros. Alors comment est-ce que je gère mon temps libre? C'est un peu parfois difficile, mais sinon je suis principalement occupée dans ma vie de famille, c'est-à-dire avec mes enfants et mon époux. Après il y a la famille élargie, mes parents, mes frères et sœurs, et puis aussi les amis. Je m'occupe aussi dans les activités récréatives et sportives avec les enfants. Et en dehors de ça, donc une vie sociale normale, sortir, boire, manger, rigoler un peu, se détendre, parce que j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très important pour l'épanouissement d'un être humain. Mes préférences, musique, sport, je suis d'abord très très fan de la musique congolaise. J'adore la musique, j'aime beaucoup la rumba congolaise. Je suis fan de notre musique et très fière de notre culture, la culture congolaise, tellement je la trouve diversifiée, mais à la fois c'est une musique qui fédère. Ça veut dire où qu'on soit, au Congo, quand on écoute, on sait que ça, ça vient des Mongos, ça, ça vient des Luba, ça, ça vient des Nandé, ça, ça vient des Swahili. Et tout ça, c'est ça qui crée l'identité culturelle congolaise. Et ça, je trouve que c'est très magique. Et en dehors de ça, j'aime aussi tout le genre de musique. J'aime le slow, j'aime le R&B, j'aime le rap. Je suis fan de bonne musique. J'aime la salsa et j'adore danser aussi. Pour le sport, je suis fan de natation, même si je ne pratique pas beaucoup. Sinon, la marche, le footing, je pense aussi que c'est des choses qui sont très bien pour notre condition physique. Ouf, les projets d'avenir, il y en a tout plein. Il y en a beaucoup, mais il y a 2 projets qui me prennent principalement à cœur depuis à peu près 6 mois. C'est que j'aimerais développer dans notre pays le marketing politique d'abord et la promotion de nos valeurs et coutumes congolaises. Donc ce sont des projets, je l'espère, que je pourrai réaliser dans un avenir très proche. Voilà mes projets.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et nous vous proposons une seule date à retenir pour cette semaine, le 24 octobre, ce lundi donc, ce sera la journée des Nations Unies. Et c'est ainsi que nous bouclons ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama à la mise en onde, héritier Sidia Kala, à la supervision Martin Sebujangwe, à la coordination et réalisation Honoré Missenga Kalala qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Nous lui faisons un petit coucou. Bonjour à vous tous qui nous aviez suivis. On vous dit à très bientôt sur les antennes de Radio Capi. Si vous voulez réécouter ce magazine, hein, vous allez sur notre site internet www.radiocapi.net. À très bientôt.